11h, 12h30.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Mickaël Quiroga, Léa Londo, Renache, François Guédon. Je voudrais que vous arrêtiez de vous moquer de moi parce que j'ai un léger problème vocal.
Non, non, on se moque pas.
On dirait que plus j'ai des problèmes dans ma vie, plus ça vous fait rire.
Bah oui, faut admettre que bon.
Elle aimerait bien effectuer un remaniement dans sa vie, environ son secrétaire d'État à la solitude pour le remplacer par un ministre des abdos en béton.
Mais
Léa Londo.
Bonjour. Aidez-moi.
Léa Londo est sur deux dossiers actuellement, on vous tiendra au courant. Il est triste d'apprendre que Picsou Magazine arrête son gâteau en plastique pour des raisons écologiques. C'est toute son enfance de petit pollueur qui part en fumée, le nostalgique. Mickaël qui regarde.
Bonjour.
Malgré la barre de 10 000 euros au mètre carré à Paris, il a tout de même réussi à devenir l'heureux propriétaire d'un local poubelle de plus de 3 mètres carrés. Loi Carrez, le roi de la débrouille, François Guédon.
Et je vous invite à la pendaison de crémaillère.
Vous êtes locataire, François Guédon?
Non, je ne suis pas locataire, je suis hébergé chez ma grand-mère à Sucy-en-Brie, que je salue. Bonjour, Mamie Coca.
Mamie quoi?
Mamie Coca.
Pourquoi?
Elle est croate et en croate, Coca, ça veut dire poussin. Il est comme ça que l'appelle
sa mère. Elle a un accent croate?
Un petit peu, ouais.
On va l'appeler.
Il est hébergé. Non, mais c'est bien parce qu'il est hébergé chez sa grand-mère, les siennes canicules, il passe proprio.
Mieux que le viager, mon gars. Ouais.
C'est un peu le Abdelaziz Bouteflika de l'émission. Pas très vif, pas très alerte, mais indétrônable. Ben H est avec nous.
Bonjour, Anne Romanoff. Bonjour, tout le monde.
Et on ne lui a pas demandé de faire partie du gouvernement. Pourtant, elle aurait été parfaite en porte-parole de la bonne humeur. Notre ministre de la joie et du chocolat, Anne Romanoff.
Au sommaire de cette émission, Ben H vous expliquera pourquoi il est si fatigué. Ouais. À 11h30, nous recevrons la journaliste et comédienne Soukaïma Mefla pour la série Simone et moi, premier programme court sur le handicap à partir du 2 avril sur la chaîne France TV / Mickaël Quiroga a vu la série, nous dira ce qu'il en a pensé. Et à partir de 11h50, l'écrivain Didier Von Kovelert sera notre invité pour son nouveau roman La personne de confiance qui sort demain aux éditions Albin Michel. François Guédon évoquera son parcours et Léa Londo lui a préparé une interview, on ne le dira à personne.
11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Non, mais j'ai le droit de tousser, c'est juste que je m'éclaircis la voix.
Mais c'est ça, non, c'est éclairci la
voix. Me regarde comme si j'ai. Ça va, c'est la vie, la vie, c'est des microbes, on n'est pas
bien sûr.
Là, c'est la fin de la vie. Là. C'est pas,
J'imagine un couple dans leur voiture. Putain, chérie, ça capte pas du tout. Hein.
On peut pas tout le temps être au top de la forme. Hein.
Non, c'est sûr.
Et y a pas de problème.
La France Insoumise a demandé à ses sympathisants de prêter de l'argent pour la campagne des élections européennes. Est-ce que ça est déjà arrivé de prêter de l'argent à quelqu'un? Est-ce qu'on vous l'a rendu? Est-ce que vous êtes un peu radin, François?
Non, moi, mon problème avec l'argent, c'est que je suis un peu trop généreux.
Ah bon?
Tenez, la semaine dernière, Ben H me demande 20 euros pour aller chez le coiffeur. Bah, quand je vois le résultat, je me dis que j'aurais mieux fait de garder mes 20 balles.
Ouais, enfin, François, avec ta calvitie, c'est pas le budget coiffeur qui doit creuser ton découvert.
il a pas de calvitie.
Si, dodo, si. Ah, si.
Il a une petite capillarité affaiblie.
Si, ah voilà.
Mickaël, vous avez prêté de l'argent à des amis?
Bah, alors moi, à chaque fois que j'ai prêté des sous à des amis, ça s'est terminé en embrouille et je les ai perdus. Et franchement, c'est un vrai crève-cœur parce que je tenais vraiment beaucoup à eux.
Non, mais c'est très bien d'aimer ses amis.
Non, là, je parlais de mes sous.
Léa?
Non, moi, mes amis n'osent jamais m'emprunter de l'argent.
Pourquoi, vous n'en avez pas?
Ben non, parce que je leur réclame les intérêts.
Elle dit ça, je suis sûre que c'est vrai.
Non, t'es folle. Non, je suis la fille la plus généreuse de mon cercle d'amis, je crois.
Mais moi, je ne m'avais jamais fait de cadeau.
C'est vrai?
Bah,
c'est
oui.
Pas vrai ce que tu dis en plus.
Quoi?
Ah ouais, alors tu veux que je te dise,
ouais.
À l'antenne, là, tu veux qu'on règle au compte? Alors, quand tu m'as dit que tu voulais écrire un film, je t'ai offert un livre.
Oui.
Hein, sur la méthode
c'est
de scénario.
C'est vrai.
Moi, en fait, je fais des cadeaux hors anniversaire, hors Noël, donc les gens s'en souviennent jamais.
Tu veux faire
je fais
un
des cadeaux symboliques.
Comment ouais. Écrire un film, vous
ouais.
Avez offert
ouais.
Tu peux pas lui offrir comment choper un mec aussi?
La drague pour les nuls.
Ouais, c'est ça, quoi.
Elle en a pas besoin, regarde. Elle le dit pas, mais en vrai, elle pécho grave.
Bah, ouais, tu sens qu'elle est épanouie. Tu sens la meuf qui a pécho parce qu'elle fait plus d'efforts. T'as vu son
mais
pull
oui. Non, c'est pas vrai.
J'ai mis un pull parce qu'il fait froid aujourd'hui et c'est le chaud froid qui m'a fait cette voix.
Ah ouais,
Ben H. Ouais, moi j'ai souvent dû emprunter de l'argent à mes grands-parents notamment.
Vous les avez remboursés depuis?
Non, par chance ils nous ont quittés juste avant.
Petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Élection européenne, le parti de Benoît Hamon, Génération, a présenté sa liste et a lancé sa campagne. Tout est prêt. Hein. Il n'y a plus qu'à trouver des électeurs.
Une cinquantaine de points de vente La Redoute seront ouverts d'ici la fin de l'année dans les magasins, les galeries Lafayette. Hein, une étape de plus dans le rapprochement entre les deux sociétés. Une fusion serait, paraît-il, possible, mais ils hésitent encore entre les galeries Redouillette et les galeries Lafouillotte.
Avant-hier, c'était les poissons d'avril et la police nationale a publié une vidéo dans laquelle elle faisait croire qu'elle formait des lapins de police. Comme des chiens policiers, mais franchement, des lapins formés par des poulets, personne n'y a cru.
Valérie Pécresse veut interdire l'entrée du métro aux pickpockets et aux voleurs récidivistes. Bah, super idée, hein, tant qu'à faire, on va même interdire aux chauffards de conduire et aux élus républicains d'ouvrir la bouche.
Aujourd'hui, Emmanuel Macron se rend en Bretagne pour le grand débat national. Une pierre deux coups, hein, comme ça il pourra entendre les Français, mais également le loup, le renard et la belette. Picsou Magazine n'offrira plus de jouets en plastique à ses lecteurs. Ils seront remplacés dès aujourd'hui par des cadeaux surprises en papier. Hein, des cadeaux surprises en papier. Picsou n'est pas devenu plus écolo, il est devenu plus radin.
Effectivement, Picsou Magazine n'offrira plus de jouets en plastique à ses lecteurs. Ils seront remplacés dès aujourd'hui par des cadeaux surprises en papier. Ça peut être super un cadeau en papier. Un billet de 20, billet de 50, 100 euros. Moi, ça me fait toujours plaisir.
Aujourd'hui, c'est l'ouverture du salon des seniors, porte de Versailles. Bah, Anne, vous faites pas l'inauguration ?
Merci, tu passeras la compta.
Le salon des seniors ouvre ses portes aujourd'hui à Paris et c'est jusqu'à samedi. Oui, ça va durer 4 jours, le temps qu'ils arrivent jusqu'à l'entrée.
Oh. C'est pas gentil. François Hollande réédite son livre. Ah bah tout va bien tant qu'il réédite pas son quinquennat.
Hop. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi. On se retrouve dans quelques instants avec Mickaël Quiroga, Léa Landou, Ben H, François Guédon et deux de nos auditeurs qui vont tenter de gagner un magnifique séjour à l'hôtel Les Flamants Roses à Canet-en-Roussillon.
Ouais.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec nous sur Europe 1 ce mercredi avec Mickaël Quiroga, Léa Landou, Ben H, François Guédon.
Bonjour.
Alors, non, il faut arrêter de se moquer. N'avez pas changé d'animatrice, c'est juste que j'ai des petits soucis vocaux.
Bien sûr.
Mais c'est sexy, hein, tu sais.
Ouais. Bah, c'est sexy ou ça fait un peu...
Asthmatique. On sait pas.
Non mais j'ai vu l'otorino.
Ouais.
Et ben il m'a dit que c'était pas grave.
C'est pas grave.
Il m'a dit que c'était de la fatigue. Donc, non
mais t'es sûr que t'as crié.
J'ai vu l'otorino. Il m'a dit que c'était pas grave.
T'es sûr que t'as pas fait des folies en pleine nuit, aller en boîte, crier.
Non.
Et l'otorino, il t'a pas proposé un viager.
T'es pas allé à un concert de hard rock, rien du tout.
Non, mais il a regardé mes cordes vocales, elles sont bien.
Ah ouais, il les a regardées avec sa langue.
C'est élégant.
Ce serait sympa.
Oh bah non,
non, il est pas beau gosse.
Bah, c'est un otorino. Enfin,
il est en physique otorino.
Il faut expliquer à Léa que même un beau gosse, il te met pas la langue dans les cordes vocales.
Bah, je pensais moi.
Mais on sent. J'imagine les gens qui écoutent la radio, ils disent qu'est-ce que c'est que cette animatrice à la voix sensuelle. Eh bien, c'est moi.
Ils ont embauché un mandalire.
C'est le moment de notre jeu.
Ouais.
Mickaël, comment s'intitule le jeu?
Non, faites-le en duo. Faites-le en duo.
Je vais le dire comme vous.
Le deviner qui je suis.
Je vais faire pareil, moi. Deviner qui je suis.
Ouais.
Europe 1, Anne Romanoff.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Cette semaine, grâce à Europe 1, tentez de gagner.
Ça fait travesti ce matin.
De gagner un tube de Ventoline.
Fais-nous rêver. Vas-y.
Cette semaine, grâce à Europe 1, mais pas du tout pour une fois que j'ai une belle voix timbrée.
Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai.
Cette semaine, grâce à Europe 1, tenter de gagner un séjour pour deux personnes.
Pas que la voix qui est timbrée. Pardon.
Détente, bien-être, évasion. À l'hôtel 4 étoiles, t'as la sauce pas les flamants roses. À Canet-en-Roussillon, proche de Perpignan.
Là, on dirait qu'on part avec Jeanne Moreau quand même.
De nuit, en formule petit déjeuner avec deux demi-journées de cure de remise en forme par personne. Modelage sous infusion, bain multijet, chromothérapie, hydrogène. Avec accès à l'espace marin, hammam, sauna, salle de fitness. Plus d'infos sur www.hotel-flamand-rose.com. Alors, on joue d'abord avec Véronique.
Bonjour Véronique. Ah.
Bonjour Anne.
Bonjour
Véronique. Bonjour
l'équipe. Bonjour Véronique. Véronique.
Alors Véronique, vous êtes factrice.
Oui.
Ah bah cachez votre voilà. Joie. Vous êtes dans la camionnette du facteur là, je vois.
Non, je suis en congé aujourd'hui, je suis dans ma voiture à moi.
Ah bah ah. Voiture à moi.
Mais enlevez les clignotants.
Enlevez les clignotants.
On les entend.
Ah ouais, on les entend. Ah merde.
Parce que vous êtes sur la bande d'arrêt d'urgence, là vous êtes où?
Non, je suis devant chez ma maman en double fil.
Ah ouais, ça craint.
Vous voulez pas vous garer? Bah garez-vous bien quand même. Parce
on
que
on sera pas dans une petite heure.
Mais vous êtes dans le 74, il y a de la place dans le 74, c'est où ça?
Ah non, pas dans le sens.
C'est où ça? C'est No, c'est où?
Annecy.
Ah, Annecy.
Oui.
Et là, vous voudriez devenir auxiliaire de puériculture?
Oui, la dernière fois, j'avais du mal à le dire.
Et là ah, vous avez déjà joué avec nous, mais le problème, oui, c'est qu'il faut passer un examen pour être auxiliaire de puériculture.
Oui, c'est ça.
Et alors?
Eh ben, j'ai foiré l'écrit.
Ah, bravo.
Quand est-ce que vous avez foiré l'écrit?
En février, là.
Ah, et vous allez le repasser quand?
L'année prochaine.
Ah, donc là, vous devez être encore factrice pendant un an, du coup?
Ouais, à peu près.
Si vous avez d'autres souvenirs douloureux à partager, n'hésitez pas.
Bon, Véronique, vous jouez avec qui?
Je joue avec Léa.
Ok. Hello. Léa, ça va?
Ouais, ça va. Attends, vous êtes prête, Véronique?
Les personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine, c'est essentiellement des artistes à deviner, des comédiens, des chanteurs. Vous êtes prête? Attention.
Une comédienne et chanteuse aux yeux bleus qui chantait « J'ai touché le fond de la piscine » dans mon pull bleu marine.
Ah,
oui, lui chantait « J'aime regarder les filles ». J'aime regarder. Il a un gros cigare.
Oh, je me rappelle plus.
Ah. Elle joue dans Tout ce qui brille avec Géraldine Nakache. Alors ça, c'est un duo comique. C'était Eric et...
Ramzy.
Oui. Elle joue dans Pubel Lavi, une comédienne assez jolie. Oui. Lui, il présentait le Morning Live sur M6 de 6h à 9h. Oui. Lui, c'est... il a le même... C'est un chanteur avec une lettre derrière qui a le même prénom que celui qui présente Vendredi, Tout est permis.
C'est quoi? Quoi? J'ai rien compris.
Non, mais j'ai compris.
Ça va. Quoi?
Arthur H.
Ouais.
Oui,
ouais,
bah,
ouais.
C'est trop tard. Mais qu'est-ce que c'est? J'aime les filles, c'est quoi que
j'aime regarder les filles?
Non, ça
c'est père, ça.
C'est même pas.
Non, c'est même pas
qui chante. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage.
C'est jamais du tronc, jamais de la vie.
Non, ça c'est Coutin, ça.
Oui, c'est pas très
Coutin. Autant pour moi.
Le mec qui a fait un seul tube dans les années 80.
Ah ouais, bah j'étais persuadée.
Alors c'est facile de dire le fils de Françoise Hardy et Jacques.
Ah ouais, bah ouais, bah ouais.
Bah oui,
du tronc. Désolée.
Ouais, c'est ça.
Ah bah oui.
Ah bah ouais.
Vous avez 4 bonnes réponses, vous n'avez pas trouvé. Arthur H, Thomas Dutronc, Leïla Bekti et Marc Lavoine aussi.
Ah, c'est Leïla Bekti.
Ouais, Leïla Bekti.
Bah, 4 bonnes réponses, c'est pas mal,
c'est pas
quand
mal.
Même. Hein,
c'est pas mal, Véronique.
On joue maintenant avec Raphaël. Bonjour Raphaël.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Salut Raphaël.
Bonjour Raphaël, vous avez 24 ans, vous êtes commercial à la Teste de Buch à côté de Bordeaux.
Exactement, à côté d'Arcachon, ouais.
Ouais. Et vous êtes commercial en quoi?
Dans l'outillage pour les pros.
D'accord, et vous avez une compagnie espagnole?
Hein? Exactement.
Et vous êtes rencontrés à Londres et vous allez vous marier en 2020.
Exactement, oui.
C'est ça l'Europe.
Comment vous êtes rencontrés à Londres?
On travaille dans un café, en fait, tous les deux, dans la restauration.
Ah.
Et elle m'a glissé son numéro dans mon pantalon.
Ah bon?
Ah ouais, ah ouais.
Voilà, c'est ça la technique.
Elle
le
cache
dans le pantalon devant vous, c'est-à-dire elle vous a mis la main dans la poche
Dans la poche de derrière, ouais.
Ah, derrière, ah ouais, ouais.
En plus, ça
et alors,
petite...
ça... vous... Mais elle vous plaisait déjà ou ça vous a...
Bah non. Ah,
non, mais attends.
Elle me plaisait, mais je ne me suis pas rendu compte qu'elle avait mis le numéro, en fait.
Ah
mais...
bon?
C'est en lavant le jean. Et alors, comment vous avez fait?
Bah, en sortant, après, j'ai trouvé un numéro, je me suis dit, ah bah ça doit être le sien.
Et vous n'étiez pas
et,
sûr
et après, je l'ai appelé.
Et alors?
Et
on s'est rencontrés, enfin... On s'est revus et on a retravaillé ensemble.
Ouais.
Et après, je l'ai amené boire des verres. Et là, on est 3 ans après déjà.
Ah ouais.
Oh.
Vous y êtes allé tranquille quand même.
Ouais.
C'est ça. Ouais. Bah, pas trop pressé, quoi.
Ouais,
et vous avez appris l'espagnol, du coup?
Bah, j'ai appris l'espagnol. Enfin, j'ai pratiqué mon espagnol.
Ouais. Le mot est bien choisi, là. Hein.
Alors, vous écoutez l'émission tous les jours?
Oui, tous les jours. Dès que je peux, si je suis pas en rendez-vous... Je suis toujours branché sur Europe 1.
Bon, ça c'est bien. Et c'est qui votre chroniqueur préféré?
Léa, mais malheureusement, bon, je pourrais pas jouer avec elle.
Ah, et après?
Et,
et c'est tout, c'est
aussi.
Tout.
Qui
Ben H.
Et Ben H.
Ben H.
Bon. Je suis vraiment le plan B. C'est... ça fait plaisir.
Pour les filles aussi, t'es le plan B.
Toujours, toujours.
Ouais, c'est vrai,
toujours.
Ouais, c'est...
Bah, pas le plan B d'ailleurs. Ouais. B de Ben H ouais. D'ailleurs.
Oui, mais enfin, plan en même Q aussi. Temps,
oui. Mais plan B, c'est pas non plus mauvais d'être un plan B.
Non, non c'est vrai que c'est toujours une lettre de plus que François. Ouais. Mais...
c'est le plan Z, François.
Oh bah merci, ça fait plaisir.
Bon, vous jouez avec qui, Raphaël?
Bah, je joue avec Ben H.
Okay.
C'est cool et c'est jouable, vraiment.
Oui, c'est vraiment jouable. Vous avez passé 4 bonnes réponses. On y va, top chrono.
C'est la femme de Nicolas Sarkozy, elle est chanteuse?
Carla Bruni.
Oui, elle jouait dans Un gars, une fille, Chouchou et Loulou avec Jean Dujardin.
Alexandra Lamy.
Ouais, c'est la femme chocolat, une chanteuse qui a fait la Starac au
Olivier
début.
Olivier Ruiz.
Ouais, c'est le présentateur de TPMP.
Ouais.
Cyril Hanouna.
Ouais, c'est le chanteur des Rolling Stones.
Mick Jagger.
Ouais, y avait le fameux duo de Canal+, de Cône et...
Garcia.
Ouais, celui qui a dit je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise situation dans le film Astérix Obélix.
Edouard Baird.
Voilà, je crois qu'on a tout. Non, on en a encore un. Le plus grand vendeur de livres français,
Yann Musso.
Ouais, voilà, bon, on a tout fait.
Non,
le chanteur marseillais, un rappeur marseillais qui chante.
Akhenaton.
Non, l'autre, un récent jeune.
Ah, dommage, on aurait pu faire un sans faute. Il l'a dit.
Wow. Et que cette confiance.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonne réponse, vous êtes champion, Raphaël.
Bravo. Voilà.
Sachant que Carla Bruni, elle est dans toutes les listes.
Bon, la liste était quand même facile, mais t'as vraiment assuré.
Ah, oui, non, mais lui, Raphaël a assuré. Raphaël, faites un cri de joie, s'il vous plaît. Vous avez gagné un séjour pour deux personnes à l'hôtel 4 étoiles Thalasso Spa Les Flamants Roses à Canet-en-Roussillon, proche de Perpignan. Deux nuits en formule petit déjeuner avec deux jours et demi de cure de remise en forme par personne avec accès à l'espace marin, hammam, sauna, salle de fitness. Plus d'infos sur www.hotel-flamant-rose.com. Véronique ?
Oh, génial.
Véronique ?
Oui. Bon,
ce sera la boule à neige.
Desserrez ce nœud. Desserrez ce nœud, Véronique.
Bon, Véronique. Sinon, on ne va pas s'arranger.
Oh, ouais, elle a raison. Ouais. Je suis désolée, Véronique. Non,
Véronique, vous savez ce qu'on va faire ? On va faire un geste. Vous allez être autorisée à le rejouer une troisième fois. Mais d'ici un mois.
D'accord. Vous êtes adorable.
On vous embrasse fort, en tout cas, hein, Véronique.
Merci, vous.
Gros bisous.
Bon courage.
Gros
bisous.
Raphaël, profitez bien.
Merci beaucoup et bravo, Ben H. Hein.
Non, bravo. Ouais,
vous allez faire un petit week-end en amour avec votre chérie. Elle va être contente.
Exactement. Juste avant le mariage pour la détendre.
Voilà.
Con la langue. Ouais. Si. Porque te vas.
Je crois qu'elle est déjà bien détendue avec vous. Comment elle s'appelle, cette belle espagnole?
Alors, elle s'appelle Inmaculada.
Oula. Immaculada, ça comme immaculée.
Je crois que le nom est caduque.
Faut juste pas. Sa mère s'appelle Conception.
Voilà.
Il faut juste pas se gourer dans la prononciation d'Immaculada.
Et c'est quoi son petit surnom? Parce que vous ne pouvez pas l'appeler Immaculada toute la journée, vous dites l'appeler comment?
Imma.
Non, en fait, Immaculada, c'est quand je suis énervé.
Ah, et sinon, vous l'appelez comment?
Corazon.
Sinon, c'est Cariño.
Ah, Cariño. Ah.
C'est-à-dire ma chérie?
Ouais, ma chérie.
Exactement, oui.
Léa, déjà sorti avec un espagnol.
Non, mais j'ai fait espagnol deuxième langue, donc je parle quand même.
Donc Cariño, c'est joli.
Eh ben, vous Cariño, avez... Cariño.
Carine. Non, Cariño, on dit pour une fille. Ah, à moins que ce soit Immaculado.
Elle me l'aurait caché.
Bah ouais, je pense. Bon,
profitez bien de votre petit week-end avec Immaculada, Raphaël. On vous embrasse et continuez de nous écouter.
Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Bon, jouez avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Miguel Quiroga, Léa Landau, Ben H, à François Guédon et ma voix qui part en cacahuète. Ne bougez pas.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Mickaël Quiroga, Léa Landau, Ben H, François Guédon.
Bonjour.
Et ma voix qui va de mieux en mieux.
Oui, on allait vous le dire.
Ouais. Bon, alors on s'habitue.
Pas du tout.
Non, c'est vrai, ça va un peu mieux.
Ça se chauffe.
Ça se réveille, ça se chauffe.
Ouais, ça se chauffe. Emmanuel Macron va en Bretagne aujourd'hui et en Corse demain. Est-ce que vous connaissez ces régions?
Ah moi j'adore la Bretagne. J'adore la Bretagne et ce que je préfère dans la Bretagne, c'est les Bretons, que je respecte énormément pour deux choses. Premièrement, avoir inventé la galette saucisse, un des plus beaux fleurons de la gastronomie française.
Ouais.
Et deuxièmement, pour avoir écrit une chanson dessus.
Une chanson ?
Bah oui. galette, saucisse, je t'aime. J'en mangerai des kilos dans toute l'île et vilaine avec du lait ribot, du lait ribot. Oh,
ça donne envie d'y aller, dis-donc.
Mais c'est une vraie chanson.
C'est une vraie chanson, c'est l'hymne des fans du Stade Rennais d'ailleurs.
Oui, ça, c'est une chanson qui se chante quand on est bourré à jeun comme ça le matin, c'est ridicule.
Ah bah oui, c'est moins bien forcément.
Visiblement, c'est servi avec du chouchen.
Mickaël ?
Bah, la Bretagne moins, mais alors la Corse, oui, ça je connais, bien sûr que je connais la Corse. Hein. Vous savez, c'est ce qu'on dit, hein, c'est le pays où on ne pleure que deux fois. Hein. Une fois quand on arrive, et une fois quand on arrive devant les ruines de la villa.
Alors, Ben H, vous avez l'air... Comme... Je suis inquiète parce que je trouve que vous avez l'air un petit peu fatigué.
Oui, Anne, j'ai bien conscience que je ne pourrais pas vous cacher mes cernes hein, ce matin. D'ailleurs, c'est plus des cernes que j'ai à ce niveau. Hein. C'est des valises, là. C'est des énormes valises, là. Si je prends l'avion maintenant, Air France me les facture en supplément bagages.
Mais qu'est-ce qui vous fatigue à ce point, Ben H ?
Bah déjà, il y a les 84 chroniques que vous me faites écrire chaque semaine. Hein. Et puis, je vous cache pas que pour arrondir les fins de mois, là, j'ai dû prendre récemment un petit boulot à mi-temps à côté de l'émission.
Ah bon, vous faites quoi ?
Là, je suis conseiller com à l'Elysée depuis lundi. Ah ! Oh, c'est un petit boulot en CDI, en intérim, en attendant de remplacer Sibeth Ndiaye qui a été promue porte-parole du gouvernement. Grosso modo, j'ai deux grandes missions. La première, c'est éviter que les médias disent des conneries, ce qui me pose, il est vrai, un petit conflit d'intérêts. Hein. D'un côté, je suis payé ici pour en dire avec vous, mais de l'autre côté, je suis payé pour contrôler qu'on n'en dise pas. Hein, c'est pas évident comme situation. Par exemple, si ce matin, en tant que chroniqueur, je dis une grosse bêtise sur le président, cet après-midi, en tant que conseiller comme, je risque de devoir m'appeler moi-même pour m'engueuler et me convaincre de démentir. Le lendemain, ici même, je ferai une chronique pour dénoncer les pressions exercées par moi-même sur moi-même et ma liberté d'expression, ce qui me pousserait ensuite à appeler le directeur de la station pour exiger mon propre licenciement. Ah, je vous le dis, là, je vis dangereusement. Deuxième mission de mon nouveau job, et pas des moindres, gérer la communication du président. Hein, et si je suis fatigué, c'est justement à cause de ça. Je suis arrivé le premier jour à l'Elysée, ah, je lui ai dit direct façon reine du shopping, ma chérie, c'est pas possible.
Refais-le, comment tu le dis ?
Ma chérie, c'est pas possible. Pour tout vous dire, notre premier entretien avec Emmanuel Macron a duré 6 heures.
Ah bon, vous avez beaucoup de choses à redire ?
Non, c'est lui qui a parlé tout seul pendant 6 heures. Mais effectivement, il y a tout à faire niveau commun. Il m'a demandé de juger sa communication sur une échelle de 1 à 10. Je lui ai répondu, Manu, t'embête pas avec l'échelle, on va se contenter de l'escabeau. Hein. À la limite, si t'es un marchepied, on va s'en contenter. Il m'a demandé, qu'est-ce que je dois changer ? Je lui ai dit, selon les sondages, tout sauf ta femme. Fini les petites phrases et cet apparent mépris là, hein, il faut que les Français retrouvent le petit Manu de la campagne présidentielle. À l'époque, il disait pas grand chose et le peu qu'il disait, on comprenait que dalle. Mais c'est ça qu'on aime avec les politiques, nous. De tout temps, le peuple a accepté que l'élite se moque de lui. Simplement, il ne veut pas que ça se voit. Oh là, pardon, c'est mon autre boulot. Pardon. Voilà. Ben H, conseiller comme à l'Elysée. Bonjour. Oui, si bête. Oui, très bien. Je m'occupe de ça. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. On vient de me mettre sur un dossier urgent. A priori, un chroniqueur, quoique hyper talentueux, fera actuellement une chronique sur les coulisses de la présidence sur une grande radio. Faut que je contrôle. Vous voyez, Anne, moi, j'arrête pas. Merci.
Europe.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben H, François Guédon, Mickaël Quiroga, Léa Landouille et notre invité, la journaliste et comédienne Soukaina Mefla pour la série Simone et moi, un programme course sur le handicap très drôle à partir du 10 avril sur la chaîne France TV Slash.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Mickaël Quiroga, Léa Landau, Ben H, François Guédon.
Bonjour.
Et notre première invitée qui est journaliste, chroniqueuse, mais elle aussi co-auteur, interprète principale de la série Simone et moi qui démarre mercredi prochain sur France TV Slash, la chaîne 100% numérique de France Télévisions. C'est la première série sur le handicap adaptée d'une histoire vraie, la sienne, qui raconte l'amitié mécanique entre Baya, 30 ans, et Simone, son déambulateur. Une série déjantée sur un sujet toujours tabou, le handicap. Applaudissements pour Soukaina Mefla. Bonjour Soukaina.
Bonjour, quel accueil.
Alors vous, jusqu'à 25 ans, vous avez été valide?
Oui, à peu près.
Et là, vous avez eu une maladie à 25 ans?
J'ai eu un syndrome cérébelleux, donc c'est une complication post-opératoire.
C'était une opération de quoi que vous avez...
Une opération de l'estomac. un peu anodine, hein, mais voilà, et j'ai manqué de vitamines, et du coup, mon cerveau est devenu une sorte de gruyère. Voilà, et c'est le cervelet qui est une espèce de mini-cerveau dans le cerveau qui gère la coordination, la marche, la parole qui a été impactée. Et du coup, bah, c'est la merde.
Donc, du coup, brutalement, à 25 ans, vous avez une vie tout à fait sympathique, vous êtes journaliste, tout ça, et à 25 ans, d'un coup, vous devenez handicapée.
C'est passé un petit peu comme ça. Effectivement, c'est que, à 25 ans.
Là, vous avez 28 ans.
Là, j'ai 28. Ouais.
Donc, ça fait 3 ans.
Exactement.
Et comment parce que vous avez un sourire magnifique, comment on résiste à ça ou comment on accepte ça?
Mais en fait, on n'a pas le choix, tout simplement.
J'imagine qu'il y a eu un moment de révolte, pourquoi?
Et puis des moments, enfin pas de dépression, mais presque.
Il y a de quoi.
Mais on n'a pas le choix, donc on est obligé de se battre et de se lever le matin et d'aller bosser pardon, de faire ce qui nous plaît.
Donc vous n'êtes pas en fauteuil, vous êtes en déambulateur.
Voilà.
Mais vous avez
Simone.
Qui s'appelle Simone.
Pourquoi ce prénom?
Ça lui va très bien en tout cas.
Eh bien Simone parce que Simone de Beauvoir, parce que Simone Veil, parce que je me suis dit que
femme forte.
Exactement.
Parce que en voiture Simone ou
exactement.
Racontez-nous cette série. Alors c'est un programme court humoristique.
Exactement. Donc ça s'appelle Simone et moi, une amitié mécanique. Donc c'est l'histoire de Baya qui a 30 ans.
Qui est votre double quelque part.
Exactement, c'est ça. À qui il arrive pas mal de petites péripéties dues au déambulateur. Donc elle est en coloc avec son meilleur ami Tom, qui l'aide lui aussi au quotidien par rapport au handicap.
Parce qu'il est kiné.
Non, il n'est pas kiné. Il y a un super kiné, beau gosse, pas mal, qui est joué par Jordi Le Bolac.
Vous avez eu un super kiné, beau gosse?
J'en ai eu plusieurs, évidemment, bien sûr.
Et là, vous étiez là, vous ne voulez pas me masser encore.
J'ai mal un peu là.
S'il vous plaît. Mais voilà, cette histoire, en fait...
C'est inspiré de votre histoire.
Oui, absolument.
Avec humour.
Et c'est vu par un prisme humoristique parce qu'on avait justement envie de dédramatiser une situation qui peut être vue comme dramatique de prime abord.
J'imagine que vous l'avez déjà montré, cette série, à des handicapés. Quelles ont été les réactions?
Alors, on ne l'a pas vraiment montré à des personnes handicapées. Non. Encore, on va à Cannes.
Vous êtes sélectionné, vous êtes le seul programme court sélectionné. Série 2019 à Cannes. Bravo,
exactement,
je crois que ça s'applaudit.
Ouais. Merci beaucoup.
Vous allez monter les marches avec Simone?
Je ne sais pas si on va les monter. En tout cas, on va essayer avec Simone et ma co-auteure Lorraine Dervieux qui a écrit aussi cette série. On va essayer de les monter. Ou ramper, peut-être, je ne sais pas encore. Le but de cette série aussi, c'était de dire que le handicap n'est pas une fatalité en soi, que ce n'est pas une tare. C'est-à-dire que même en situation de handicap, on peut travailler, on peut vivre, on peut faire plein
aimer.
De choses. On peut aimer, effectivement, on
être
peut
aimé.
Être aimé. Et
là, vous êtes aimé?
Elle pose toujours des questions intimes.
Exactement. Mais je suis aimée par mes proches. Évidemment.
Vous allez voir à Cannes, vous allez pécho, ça va être terrible.
J'espère.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Soukaina Mefla, venue parler de sa formidable série Simone et moi, réalisée par Maxime Chardin et Lorraine Dervieux. On peut la voir sur France TV/télévision et puis au Festival de Cannes au mois de mai. Ne bougez pas.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1, avec Mickaël Quiroga, Léa Landau, Benach, François Guédon et Soukaina Mefla. Ça a été facile, Soukaina Mefla, de trouver des producteurs pour cette série où les gens ont été...
Eh bien, on a eu une chance extraordinaire, vraiment, parce que quand on l'a proposé à France Télé / on a rencontré par le biais de France Télé plusieurs producteurs. Et puis, on a eu un coup de cœur pour 2P2L et pour Antoine Pivny, qui est le producteur, qui, lors de notre premier rendez-vous, a dit bonjour à Simone. Et du coup, avec Lorraine Dervieux, On s'est dit que bah, il avait compris tout simplement l'univers de la série et banco, on est parti avec lui.
Et lui, maintenant, il va aller à Cannes aussi.
Exactement, on l'amène un peu à Cannes.
Ouais. Souka Inamefla, Mickaël Quiroga a regardé votre série.
Tout à fait, Anne. Donc, alors, bonjour Souka Ina. C'est vraiment une joie de vous rencontrer. Vous êtes venu nous parler de Simone et moi, une série sur le handicap et les difficultés qui y sont liées dans la série. Vous êtes Baya et Simone, c'est votre déambulateur. Et première surprise, il existe des déambulateurs femelles.
Exactement.
Voilà, alors dans le public, faites gaffe, les mélangez pas, sinon on va avoir des petits. Hein. Simone, personnage à part entière de la série et à qui Dalia Bonnet prête sa voix, faut le dire aussi. Simone est utile et en même temps, c'est un boulet. On peut s'appuyer sur Simone, mais elle est lourde. Hein, c'est un peu votre Christophe Castaner à vous, Simone. La série Simone et moi, c'est ambiance. Il était une fois l'histoire de la princesse Cotorep. Hein, c'est un peu ça. Mais la princesse, en l'occurrence, elle colle des coups de boule au prince charmant, elle fait des croche-pieds aux vieilles dames en faisant des courses de déambulateur et elle pique les mecs de son coloc. Hein. Bref, c'est une fille normale. Voilà. Vous mettez l'accent sur le scandale de l'accessibilité pour les personnes handicapées. Cela dit, il faut savoir qu'à Paris, Anne Hidalgo a beaucoup œuvré pour l'égalité entre valides et handicapés. Je tiens à le dire, l'astuce, c'est qu'au lieu de faciliter le déplacement des handicapés, elle a compliqué les déplacements de tout le monde. Comme si on est tous au même niveau. Alors certes, les valides ont la santé, mais ils ne vont pas plus vite. Il y a un petit côté aussi sans pitié hein, dans le personnage dans votre série. Et vous avez raison, il faut parfois se montrer inflexible, pardon, voire dur. Par exemple, avec les enfoirés qui se garent sur les places handicapées, hein, sous prétexte qu'ils n'en ont que pour 2 minutes. Moi, je propose carrément qu'on les ampute d'une jambe, comme ça, pour en se garer 1 heure. Les problèmes moteurs que vous évoquez, les difficultés d'élocution, autant de choses qui font que les randos, les amis, les balades, le jogging, danser, tout ça c'est compliqué. Alors bien sûr, il reste les soirées beuveries. Bon, c'est vrai que l'alcool n'est pas à conseiller, il reste dangereux pour la santé, mais la beuverie a l'avantage de mettre tout le monde à égalité. Après 3 grammes, il n'y a plus de coordination, d'équilibre, ni d'élocution. À la fin de soirée, tout le monde titube, vous passez inaperçu. Et puis on apprend beaucoup avec cette série, par exemple, que le handicap n'enlève rien au fait que vous êtes une jeune femme extrêmement jolie, avec une vie de femme et sans doute des désirs de femme hein, quand vous allez chez le kiné qui se trouve être un beau gosse, on en parlait tout à l'heure, la séance de soins dans votre tête c'est Dirty Dancing hein. Vous avez comme qui dirait une envie de kiné. On a toutes les lettres hein, mais dans le désordre. Et alors quand le gars qui vous plaît habite au 5e étage sans ascenseur, là c'est une galère, vous êtes obligé de lui grimper dessus pour qu'il vous emmène chez lui. Et ben là j'ai appris quelque chose, parce que pour les valides, vous voyez, c'est le contraire, faut d'abord monter chez les gens avant de leur grimper dessus. La série super bien écrite, je tiens à le dire, et réalisé, c'est inventif, c'est hyper drôle et même émouvant. J'avoue que même moi qui suis plutôt le genre de mec sans cœur, ah ouais, moi quand un mec tombe je rigole, et s'il saigne je me pète les côtes. Eh ben vous m'avez eu sur l'épisode du local poubelle.
Oh.
Ah franchement, si, je vous laisse découvrir, franchement c'est vraiment à voir. Et moi j'ai été obligé de me regarder toute la saga des Rambo pour faire remonter mon taux de testostérone pour pouvoir retourner voir les potes sans avoir les yeux tout rouges. Alors je dois dire aussi que les épisodes de la série se regardent avec plaisir, se consomment comme des bonbons, comme des carrés d'une tablette de chocolat, et comme le chocolat quand on commence un âne, on peut pas s'arrêter. Qui c'est qui a dit un âne? Voilà, dernièrement j'ai appris qu'à Abu Dhabi on n'appelle pas les handicapés des personnes handicapées, on les appelle des personnes déterminées, et c'est ce que vous êtes, Souka Ina Mefla, déterminée, et avec une série comme Simone et moi, vous pourriez bien devenir déterminante.
Merci. Merci beaucoup.
Europe 1.
Merci Souka Ina Mefla de passer nous voir. On rappelle votre série Simone et moi, une série humoristique sur le handicap, 10 épisodes que vous pouvez voir sur TV Slash à partir du 10 avril et sur YouTube.
Exactement.
Et sélectionné à Cannes, ma chère.
Et vraiment, c'est génial. C'est vraiment génial.
Ne bougez pas, dans quelques instants, c'est Didier Von Kovelert qui sera notre invité.
Midi 30, Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Mickaël Quiroga, Léa Londo, Ben H, François Guédon et notre invité qui est une des forces vives de la littérature française. Prix Goncourt en 94, celui qui se qualifie lui-même d'écrivain de la reconstruction a construit une œuvre monumentale, auteur de 30 romans, 8 scénarios, 7 essais, 6 pièces de théâtre, 4 bandes dessinées, 2 comédies musicales.
Ouais, pas grand-chose.
On ne sait plus si c'est une carrière ou les numéros du loto. J'en suis même parlé de son nouveau roman La personne de confiance. Didier Von Kovelert est notre invité ce matin sur Europe 1.
Bonjour Didier Von Kovelaert.
Bonjour.
Alors bienvenue sur Europe 1. Ce roman, La personne de confiance, parle d'accident de voiture, de suicide assisté. Bah, comme ça, on est sûr que Disney fera jamais un remake. C'était peut-être pas une bonne idée ce week-end chez Michel Houellebecq. Non, alors c'est un roman, évidemment, comme tous vos livres, qui est très drôle. Mais vous avez trouvé l'inspiration comment ?
À la situation de départ. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps. C'est un cow-boy urbain, un conducteur grutier de la fourrière. Vous savez, c'est bienfaiteurs de l'humanité. Là, ouais.
On a envie de défoncer.
Ils sont dans une illégalité totale, parce qu'à Paris notamment, où c'est des 4x4 qui sont plus pratiques que les camions grues, et on n'a pas le droit pour des raisons techniques, ils sont dans l'illégalité, puisqu'il faudrait un freinage assisté pour remorquer les voitures. Mais ça génère un tel blé que personne ne bouge pas. Et j'imagine un de ces gars très sympa, par ailleurs, qui est le recordman vraiment de la fourrière Foch à Paris. Il y a 15 secondes de l'arrêt jusqu'à la croche. Et il emporte la voiture, ce qui fait qu'il a des primes.
Vous expliquez qu'en fait, normalement, la procédure, quand on va mettre une voiture à la fourrière, c'est une pervenche qui met un autocollant, et après, ouais. La fourrière vient. Et lui, il colle les autocollants lui-même.
Oui, directement. Ouais. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de pervenche, tout ça, c'est des privés, donc ça va plus vite. Il colle l'enlèvement demandé, et il enlève lui-même. Il gagne du temps, et comme ça, il engrange des primes pour payer son loyer.
Il arrive Il arrive en enlever combien par jour ?
Ah, il a le record, il a 50 par jour.
Ah ouais.
Et donc, c'est sa un première matin. Prise du matin. Ouais. Il y a une énorme Rolls, dernier modèle, ce genre de cercueil plombé qui appartient aux mafieux russes, aux émirs du Qatar. Et il se dit, chouette, sur un emplacement livraison. Alors celui, vous savez, avec les lignes jaunes continues, ça s'appelle un emplacement sanctuarisé. C'est-à-dire, ouais. On ne peut même pas s'y mettre la nuit. Quoi. Alors là, c'est tout bénef, il descend, il accroche, il emporte la voiture. Et puis, il est en train de remonter l'avenue de Malakoff quand il y a un livreur de pizza qui le double et qui lui dit « Hey man, t'as une yeuve à l'arrière !» Alors il s'arrête atterré, il va voir et en effet, la glace noire, opaque, est baissée et il y a une vieille dame qui est à demi dans le coltard sur la banquette arrière. Alors ça, c'est une catastrophe parce que ça, c'est le renvoi immédiat.
Ah ouais.
C'est arrivé dans la réalité, notamment à un type qui a chargé une Audi avec un bébé à l'arrière.
Non.
Qui a pas vu. Oui, alors ça, c'est le renvoi immédiat. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne peut pas non plus
la débarquer sur la
voie publique, ça se fait pas, une vieille dame quand même. Il peut pas non plus relâcher la voiture, la remettre en place, parce qu'ils ont des mouchards dans chacun de leur véhicule. Et la seule solution, c'est son GPS lui dit, il y a une clinique juste à côté, il va la déposer aux urgences, et comme il est encore dans les temps, voilà, il la dépose, il dit, j'ai trouvé sur la voie publique, et il ramène la voiture à vide. Sauf que, au moment où il s'arrête devant la clinique, eh ben, la vieille dame, il sort de la voiture, et d'un coup, elle lui dit, oh Victor, enfin, ils t'ont relâché. Et elle le prend pour son amant de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. C'était une héroïne de la Résistance qui a créé une biscuiterie, c'est les biscuits de Mamie l'Armor, quatrième marque française. Et voilà ce gamin devant cette femme qui la prend pour quelqu'un d'autre. Ça l'arrange pour son incognito. Mais là, il met le doigt dans quelque chose qui va se retourner contre lui, qui a une situation terrible. Et en même temps, lui donner un destin extraordinaire. C'est-à-dire que la manière dont cette vieille dame, qu'on croit Alzheimer, mais en fait, elle est mise sous médicament par son héritier qui essaie de la faire passer pour folle pour récupérer la biscuiterie. Et en fait, la manière dont ce môme va gérer la situation, elle va avoir une immense confiance immédiate en lui.
Et elle va l'adopter.
Et le choisir d'abord comme personne de confiance. Vous savez, quand votre famille essaie de vous faire des misères, la solution, médicalement et financièrement, c'est de choisir une personne de confiance. C'est-à-dire dont la vie prévaudra sur celui de la famille quand elle veut vous interner, tout ça. Et à partir de là, oui, elle va en faire son héritier idéal. Et lui, il va se servir d'elle pour draguer la fille inaccessible, sa voisine du dessus, qui est étudiante en pharmacie.
Samira.
Et voilà. Et donc, ça va être l'histoire d'un trio complètement improbable au départ, de cette vieille héroïne de la Résistance, aide-cuisinière devenue la patronne de biscuiterie, complètement aux abois, que sa famille essaie vraiment de détruire. Et elle va miser sur ce mot, mais sur cette jeune fille du 9-3.
Et ça se termine bien.
Faut pas tout dire.
Ça se termine tout de suite.
Alors, un des thèmes du roman, c'est aussi le suicide assisté. Vous avez un point de vue là-dessus ou...
Bah oui, on le sent, je pense, en lisant le livre. Il est très important à la fois de laisser le choix aux personnes de mettre un point final pour telle ou telle raison à leur vie. Et en même temps, il est important que la société garde des remparts pour éviter que
qu'il y ait des meurtres familles, déguisés. Personnes,
que le suicide assisté devienne un héritage assisté. Ouais. Quoi.
Oui, c'est ça. Exactement. Et puis parfois, la meilleure réponse pour contrer l'idée du suicide assisté, c'est d'offrir autre chose, que la vie vous offre autre chose. Et là, tout à coup, depuis qu'elle s'est fait gruter par ce gars de la fourrière, elle n'a plus envie de mourir.
Dès que les idées qu'elles se font gruter, ça va tout de suite mieux.
Europe 1. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Didier Van Coveler, venu parler de son dernier roman, La personne de confiance, qui vient de sortir aux éditions Albin Michel.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Mickaël Quiroga, Alain Benache, François Guénon, notre invité. Vous êtes content d'être mon invité?
Oui, absolument.
Invité, vous l'avez déjà fait, mais invité, jamais.
Ouais, c'est la première
jamais,
fois.
Jamais invité, c'est vrai, mec, amitié, c'est bien.
Notre invité, Devon Kovalert, venu nous parler de son dernier roman, La personne de confiance, qui sort demain aux éditions Albin Michel. Alors, 1 million d'exemplaires, un aller simple. Et vos autres livres, 150 000, ça va, c'est une petite moyenne sympathique.
En moyenne, oui, avec des pics.
Ça stagne, hein, quand même. Hein, ça stagne.
Mais non, j'ai la chance d'avoir un public fidèle qui répond présent à mes rendez-vous. Et ça, c'est la plus belle des récompenses, encore plus que les prix qu'on a eu la gentillesse de me donner.
Vous entretenez des liens avec ce public, je veux dire, en dehors des séances de dédicaces, vous répondez aux lettres.
Aucun lien de correspondance, Internet, je ne suis pas sur Facebook, juste parce que je n'ai pas le temps, quoi. Je ne peux pas à la fois créer et écrire et correspondre. Et
donc vous répondez pas.
Je prie mon public de m'en excuser, mais d'autres le font pour moi. Hein. Sur les sites et tout ça, il y a d'autres personnes qui se font passer pour moi ou qui imaginent ce que je dois dire.
Ils donnent des rencarts à votre place.
Ce qu'ils vous ont expliqué à la première réunion, c'est qu'il ne faut pas le dire.
Exactement.
Vous rappelez.
Mais non, en revanche, je me déplace beaucoup dans des librairies, dans des salons du livre. Et là, je suis présent physiquement. Et là, c'est là que se font les vraies rencontres pour moi. Je suis toujours bluffé par la manière dont les gens arrivent en peu de temps et en public à dévoiler des choses super intimes sur pourquoi ils aiment telle chose dans mes livres, en quoi mes livres leur ont permis de rencontrer un mec, une fille, comme ça, de partage. Enfin, des choses où parfois, comment ça les a aidés à surmonter un deuil, un échec, comment parfois, grâce à moi, ils ont divorcé parce qu'ils sont...
Je vais pas rester dans cette vie. Mais il n'y a jamais des maris qui viennent vous casser la gueule.
Non, mais vous connaissez ça aussi.
Ah oui, le divorce.
Les gens, ils sentent, comme ils ont partagé du temps avec vous à votre insu,
ils se sentent intimes.
Ils se sentent intimes. Et donc, en échange, ils vous racontent.
Ouais.
Et parfois,
vous êtes gêné même.
Un jour, une dame qui me dit « Oh, qu'est-ce que grâce à vous, j'ai complètement changé de vie. J'ai viré mon mec, j'ai viré mes enfants, j'ai tout arrêté. Qu'est-ce que je vais mieux ?» Et là, je sens dans son ton que c'est... Je suis pas forcément convaincu.
Ah ouais.
Et je lui dis, elle aurait peut-être mieux fait de lire Welbeck.
Votre père était un avocat. Vous l'avez décrit comme un bout en train déformé par la douleur. Et peu après votre naissance, il a eu un grave accident de voiture. Et dans votre enfance, vous avez entendu une conversation. Votre père dire, vous aviez 7 ans, si je remarche pas, je me tue.
Ouais.
Et vous avez commencé à écrire pour faire gagner de l'argent à votre famille.
Vu qu'il était quasiment en fauteuil roulant, je me suis dit, il va se suicider dans pas longtemps. Et j'ai essayé de faire un truc complètement dingue qui lui donne envie de vivre même en fauteuil roulant. Donc d'être le plus jeune auteur publié au monde. Quoi. À l'époque,
vous lui avez pas dit ou vous lui avez dit?
Il l'a découvert après parce qu'il était avocat et je détournais sa secrétaire pour taper mes manuscrits. Et comme les éditeurs vont me renvoyer les manuscrits, un jour il a ouvert, il n'a pas vu que c'était mon prénom de dessus, les éditions du Seuil renvoyaient un manuscrit et là il a reconnu sa machine à écrire.
Alors
et d'un coup, donc.
Là, vous aviez quel âge quand il a découvert que vous écriviez ?
9 ans et demi.
Vous avez écrit 2 ans et demi en cachette, ça veut dire ?
Un petit peu, ouais. Je voulais faire la surprise, mais ça ne marchait pas. J'envoyais depuis une
nuit à Paris
mignon. Chez l'éditeur.
Bah ouais.
Vous savez, c'est une manière de supporter la douleur. Justement, j'essayais de faire un truc incroyable.
Finalement, votre père est mort à 91 ans, dans vos bras.
Oui, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas mes livres qui l'ont sauvé, c'est la chirurgie.
Pas.
Ça a été le pionnier, la première grève de hanche, quoi. En 69, c'était lui. Et j'ai continué à écrire, même si je n'avais plus l'envie.
Le grand amour de Vaudure, on a l'impression, votre père.
C'était l'allumeur de rêve. Enfin, j'y avais déjà du rêve, mais celui qui disait « vas-y ».
Vous dites aussi que vous êtes resté en contact, parce que vous croyez beaucoup à la vie après la mort, Devon Coverlert, et que vous êtes resté en contact avec lui.
Disons qu'il s'est manifesté. Mais je suis pas pour emmerder les défunts, ni pour emmerder les vivants, d'ailleurs. Mais,
de quelle manière il s'est manifesté?
Par un clin d'œil. Bon, le premier, c'est quand même assez extraordinaire. Il est mort 2 jours avant son anniversaire. Et ce qui fait que le jour de son anniversaire, je me dis, tu vas pas t'en tirer comme ça, je vais quand même te souhaiter ton anniversaire. Et il a son gâteau préféré, c'était un panettone. Donc je prends un panettone et puis je prends une bougie, j'allume la bougie, j'apporte à sa place au salon, allez, joyeux anniversaire, papa, et puis souffle ta bougie. Évidemment, il souffle pas, je la souffle, je mouille mon doigt, j'éteins, et puis je vais m'occuper ailleurs. Et quand je reviens une demi-heure après au salon, mais j'étais seul, hein, c'est la bougie était rallumée. Alors là, d'abord, je me dis,
c'était une bougie magique.
C'est une bougie au gaz. Ouais. Tout ah ouais. Donc, je vérifie. Non, c'était des bougies de mon enfance, le truc en suif bleu, quoi. De, et j'appelle un copain un pyrotechnicien. Je lui dis, c'est possible qu'une bougie, bon, normale, qu'on a éteint, qu'on a mouillé la mèche, se rallume. Il me dit, non, c'est pas possible. Là, il m'explique des trucs techniques, m'expliquant l'énergie considérable qu'il faut. Pour... Voilà, je n'ai pas d'autre explication que le clin d'œil que me renvoie mon père à partir d'un clin d'œil. Donc ça, c'est, si vous voulez, mon conseil par rapport à tout ça, à l'au-delà. Être très, très cool, savoir que parfois, quand on se met sur ce mode de communication, simplement de petit appel, de clin d'œil, on peut avoir une réponse. Et j'en ai eu souvent des comme ça.
Europe. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Didier Von Koveler, venu nous parler de son dernier roman, La personne de confiance, qui sort demain aux éditions Albin Michel. Ne bougez pas.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Mickaël Quiroga, Lalando, Ben H, François Guédon.
Bonjour.
Et notre invité Didier Von Koveler veut nous parler de son dernier roman, La personne de confiance. Il y a toujours beaucoup d'humour dans vos livres.
Je pense que l'émotion, elle est encore plus forte quand on a ri avant. Quoi. Ce qui m'intéresse, c'est... c'est une situation qui fait rire et qui touche des personnages qui, du coup, vont devenir émouvants ou par le décalage de leur situation... C'est ça, quoi. J'aime pas le pathos, j'aime pas appuyer sur les choses. Et...
Vous dites d'ailleurs que quand vous étiez jeune, vous n'avez pas tellement lu parce que vous étiez tellement occupé à écrire que vous n'aviez pas le temps de lire. Et qu'un jour, vous êtes parti en colo et pour impressionner les monitrices, vous avez amené des livres que vous n'aviez pas lus pour faire genre que vous les lisiez.
Ouais, et ben c'est une bonne manière de se mettre à lire, c'est de faire semblant de lire, justement. Parce que pour être pris un peu au sérieux par les. J'avais pris Balzac, Agatha Christie, comme ça, et je faisais semblant. Et puis il y en a une qui était vraiment super jolie, mais elle arrivait tard pour faire le bisou du soir. Elle arrivait, donc moi je m'étais installé. Puis, et à force de m'emmerder à lire le bouquin, comme ça, j'ai commencé à lire
vraiment,
un jour mon premier Balzac. Voilà, comme ça.
Grâce à la monitrice. Vous vous rappelez comment elle s'appelait ?
À 9 ans, la monitrice, ouais. Mathilde.
Et elle a fini par passer ou pas ? Vous êtes endormi sur le bouquin ?
Non, tout de suite. Non, quand même, j'étais en vigilance. Vigilance orange.
Alors vous avez aussi un lien par. Alors vous croyez à l'au-delà et aux arbres. Donc vous allez tout le temps embrasser des arbres. Vous continuez ça ?
Oui, oui. Ah bah, et j'ai fait ça bien avant que ce soit à la mode. Il fut un temps où j'étais un peu ridicule. Maintenant tout le monde fait ça.
C'est vrai.
Parce que évidemment il y a des échanges qui se produisent entre les composés volatiles des arbres et nous-mêmes. Toutes les substances qu'on reçoit et puis l'énergie électromagnétique.
Vous dites que même dans votre jardin, il y a des arbres qui sont jaloux. Si vous occupez trop d'un arbre, les autres sont jaloux.
J'essaie d'éviter les jalousies, ouais.
Alors, on me l'a dit, cette histoire d'arbre. J'ai essayé d'embrasser un arbre. Je ne sens
rien. Et t'as pas repoussé quand même.
Non, mais c'est pas non plus smack. C'est pas le baiser. Si c'est...
Non.
Voilà,
j'ai pas embrassé sur la bouche.
Vous allez pas vous coincer la langue dans l'écorse.
Non, faut le tenir dans ses mains.
On l'embrasse. Mais j'ai pas senti de force, je suis désolée.
Tu t'es pas concentrée peut-être.
Si.
Ah ouais.
Alors, c'est peut-être pas un arbre qui est fait pour vous. Il faut en essayer d'autres. Je veux dire, c'est comme les mecs. Hein. C'est pas. Il y a des incompatibles et puis il y a des compatibles.
Ouais.
Donc, il faut sentir quand même. Moi aussi, il y a des arbres.
Présentez-vous peut-être, c'est ça. Il faut peut-être qu'elle se présente, parce qu'elle arrive.
Moi, je vous présenterai des arbres.
Mais vous le faites pas dans les squares quand même. Vous faites quand vous êtes tout seul dans la forêt.
Je le fais partout, mais au contraire, en ville, les arbres dont personne s'y intéresse, donc ils sont beaucoup plus réceptifs. Oui. Il est très bon d'enlacer les arbres urbains.
Ouais.
Ça leur fait du bien et ça peut vous faire du bien. Ils ont une énergie dingue. Et...
T'as au bois de Boulogne, j'en connais qui vont être jalouses.
François Guédon a des choses à vous dire, Didier Von Koveler.
Oui, monsieur Didier Von Koveler, je dois vous le dire, face à vous, j'ai l'impression d'être un enfant. Hein, je suis impressionné, stupéfait, estomaqué, que dis-je ? Je suis esbobi devant autant de talent.
Ah, là, la fièvre... Il emploie des mots qu'il ne connaît pas. Esbobi.
Je croyais que c'était une question, moi. Esbobi.
Non, c'est un mot esbobi, voilà, c'est pour la culture. Non, la fièvre de l'écriture se déclare chez vous à seulement 7 ans. Et de vos 7 ans à vos 10 ans et demi, vous aviez déjà écrit pas moins de 10 manuscrits. Moi, mon premier poème, je l'ai écrit à 9 ans. Et je me propose d'ailleurs de vous le lire. Le ciel est beau comme un diamant, la mer jolie comme un faon, mais ni le ciel, ni la mer, ni même le firmament ne seront aussi beaux que ma maman.
Bravo.
Voilà, on sent déjà à travers ces vers un certain...
Oui, calmez-vous François, c'est pas du Rimbaud non plus. Hein.
Alors, vous avez continué d'être possédé hein, par ce démon de l'écriture. Vous noircissez des pages à un rythme effréné dans une espèce de staccanovisme de la plume qui va vous pousser à publier votre premier roman à 22 ans. Et depuis, on ne vous arrête plus. Moi, je pense que vous êtes parti avec un avantage parce que quand on sait épeler Didier Van Cullevert dès l'âge de 4 ans, c'est quasiment de la triche.
François, vous voulez pas plutôt qu'on revienne sur votre poème ?
Non, c'est pas la peine. Alors, si vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre dernier roman intitulé « La personne dont confiance » qui se déroule en Bretagne et qui raconte l'histoire de Maximilien Médard, dit Max, hein, cet employé de fourrière, ce gars de rien, trouvé dans une poubelle à la manière d'un Bernie Noël qui va découvrir à l'arrière d'une Rolls hein, qu'il était sur le point de remorquer Madeleine, 93 ans. Alors toujours est-il hein, que cette dernière avait prévu un suicide assisté et va désigner Maximilien comme sa personne de confiance. Et je trouve que c'est un thème que vous abordez là, un thème séculaire. Qu'est-ce qu'une personne de confiance ? Question que doit se poser en ce moment Emmanuel Macron. Il en est à son 24e remaniement, tout le monde est parti, c'est plus un gouvernement, c'est le plus grand championnat de chaises musicales au monde.
François, vous pouvez revenir au roman, s'il vous plaît.
Pardon, je m'égare. Non, ce qui m'a frappé dans votre roman, c'est cette narration policière sur le mode de la garde à vue qui fait la part belle au personnage. C'est ce langage teinté d'oralité, ce style presque parlé dans lequel on retrouve une pincée de Céline, un soupçon de San Antonio. Et j'ai d'ailleurs appris des nouveaux mots. Notamment dans la bouche de Max, j'ai appris que le kir était un contrevenant en instance de règlement et pas seulement ce cocktail à base de vin blanc et de crème de cassis qui tire d'ailleurs son nom du chanoine kir qui va dans les années 50.
Oui, on a compris François.
Pardon, je digresse. Non, je ne dévoilerai volontairement pas plus hein, de cette intrigue délicieusement bretonne dont la tendresse respire le kouign-amann, dont les rebondissements sont aussi savoureux qu'une crêpe au sarrasin, dont l'humour atteint des sommets aussi hauts que celui des coiffes des bigoudaines, un livre qui, au fond, se déguste comme une bonne bolée de cidre. Alors Didier, je n'aurai qu'un seul mot, Yermat.
Ça veut dire quoi, Yermat ?
Ouais. Ça veut dire santé.
En breton. Europe 1. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la dernière partie de cette émission avec Léa Landau, Mickaël Quiroga, Ménage, François Guédon et notre invité, l'écrivain Didier Van Cullevert, venu nous parler de son nouveau roman La personne de confiance qui sort demain aux éditions Albin Michel.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Mickaël Quiroga, Léa Landau, Ben H, François Guédon, notre invité Didier Van Cullevert. Vous dites, Didier Van Cullevert, que le trait de caractère dont vous êtes le moins fier, c'est votre dispersion.
Oui, j'ai un problème parfois sur les priorités à définir parce que tout m'intéresse, beaucoup de choses m'attirent.
Beaucoup de femmes vous dispersez.
Beaucoup d'arbres.
Voilà, la faune, la flore. Tout ce
beaucoup
que
de création aussi. Alors.
Oui, c'est ça. Non, c'est surtout dans le
c'était
travail.
C'était magnifique ce spectacle, le passe-muraille que j'avais vu. C'était
avec
il y a
Michel
très longtemps.
Legrand, Michel Legrand, c'était.
Au Bouffe Parisien, c'était un
une amitié de 30 ans. On commençait par le passe-muraille. Après, on a fait Dreyfus à l'Opéra de Nice, qu'on va reprendre maintenant à Paris, malheureusement sans Michel. Et voilà, ça fait partie aussi de la dispersion heureuse quand Legrand m'appelait en disant « Mais attends, mon chéri, il faut absolument qu'on se voit tout de suite, qu'on écrive un nouvel ouvrage, on ne peut pas rester comme ça. » Alors bah, je fonçais, je retrouvais Michel. C'est merveilleux pour un solitaire, un écrivain solitaire, d'avoir aussi cette dimension-là grâce au...
D'être sollicité.
Oui, et peu grâce à l'extraordinaire talent, générosité de Michel Legrand, c'était qu'il me donnait l'impression, quand je travaillais avec lui, que j'étais un grand compositeur moi-même. Enfin, c'est moi qui construisais l'ouvrage à partir de ses mélodies. c'est vraiment, c'est une perte irremplaçable, le grand. C'est, j'ai beau, comme vous disiez, voilà, être en familiarité avec l'au-delà, ça me fait vraiment chier qu'il soit parti.
Léa Landau a des questions à vous poser, Didier Van Kovelaert.
Oui, Didier Van Kovelaert, à cause de votre livre, je me suis demandé si j'étais une personne de confiance, à ne pas comprendre, à pas confondre avec une personne juste, qui n'est pas juste personne, mais quelqu'un de bien. Une personne de confiance, c'est souvent une belle personne, alors qu'une personne belle peut être aussi une vraie salope, mais ça, tout le monde est au courant. Franchement, Didier Van Kovelaert, vous croyez au Père Noël ? Encore.
Et à la Mère Noël aussi.
Ouais. Hein, et vous croyez aux licornes ?
Non, je suis moins licorne. Ah,
parce que vous
croyez. Aux sirènes, je préfère les sirènes aux licornes.
Mais ouais, vous croyez vraiment encore aux personnes de confiance ?
Bah, bien sûr, mais il suffit de regarder au-delà de la radicalité d'agressivité, de bêtises, d'insatisfaction qui gangrènent notre société. Il y a encore des gens formidables qui ne demandent qu'à se révéler. Vous savez, la première phrase du livre, elle interpelle beaucoup de gens, mais j'y crois profondément. On croit qu'on ne sert à rien sur Terre jusqu'au jour où quelqu'un vous demande l'impossible.
Bon, c'est bien, mais ça m'arrange que vous croyez aux personnes de
confiance. Personne ne lui a jamais demandé l'impossible. Allez. Bah,
c'est vrai.
Même ce qui était possible, il ne demande pas. Non.
En fait, quand elle demande un truc, ils font non, pas possible.
C'est vrai, j'ai l'habitude, je ne demande plus. Donc, je vous ai préparé une interview, on le dira à personne, Didier Van Kovelaert. C'est-à-dire que vous pouvez absolument tout me dire. Ce sont des questions intimes et vraiment rester tranquille.
Personne ne m'écoute. Ouais.
Alors, dans votre film, le grutier Maximilien prend les décisions à la place de la vieille dame Madeleine. Quelle est la dernière décision que vous avez dû prendre à la place de quelqu'un d'autre ?
Je viens de perdre ma mère et c'est vrai que j'ai décidé des choses pour elle à un moment donné. En mon âme et confiance.
Et confiance. Vous avez été récompensé pour votre livre Poisson d'amour, sorti en 84. Mais comme il y a 5 jours, c'était le moment des poissons d'avril. Vous qui avez l'imagination débordante, quel est le poisson d'avril le plus drôle que vous ayez manigancé ?
Alors le pire, c'est ce qui m'a peut-être coûté le plus cher aussi, c'est quand j'étais en terminale et j'étais amoureux, j'avais envie d'une après-midi avec ma copine sur la plage et j'avais cours tout l'après-midi avec une prof de français. Et je passe devant une cabine publique devant le lycée et je rentre, je décroche, j'appelle le bureau des absences. Je dis que j'appelle de la part de mademoiselle telle et qui ne pourra pas venir cet après-midi. Et on me dit, vous êtes ? Je dis, oui.
Vous êtes,
très bien. Et quand j'arrive, il y a marqué, mademoiselle,
ne sera
absente
pas là.
Après-midi, tout ça, donc tout le monde
se bat,
se casse et tout ça. Et sauf celui qui était, vous savez, le dernier de la classe, celui qui parle avec la grosse voix au fond. Ouais. Et lui était resté travailler en études. Et la prof arrive, il n'y a pas ses élèves, elle les cherche partout, elle en trouve un. Et on lui dit, mais vous êtes absente, directrice, la CPE, mais pas du tout, vous voyez bien que je suis là, et il y a c'est toi qui m'as mis absente. Je dis, pas du tout, l'autre se fâche, s'énerve, et quand j'arrive le lendemain matin comme une fleur, j'arrive, on me dit, tu sais pas ce qui s'est passé, c'est Franck, il a mis la prof absente, pas du tout, c'est moi, arrête tes conneries. Moi j'étais délégué de classe, j'avais l'air sérieux,
ouais. Tout ça.
Et le mal que j'ai eu pour arriver à faire comprendre à la prof que c'était moi qui avais fait ça,
ouais.
Et que je ne me sacrifiais pas en tant que délégué, prenant la responsabilité. Bon bref, on m'a viré 3 jours, on avait bien fait.
Mais, là vous avez pu aller à la plage.
Oui, tout seul là, malheureusement.
L'année dernière vous avez sorti Les émotions cachées des plantes, donc on en parlait. Ben H, c'est plutôt les plantes qui lui procurent des émotions. Quand il les fume.
Rien de caché, visiblement.
Quand il les fume. Et vous, Didier Van Kovelaert, les plantes, vous en fumez ? Ou juste vous leur parlez ?
J'ai sucé des plantes. Je n'ai pas fumé.
Sucé des plantes aussi...
Sucé des plantes.
Vous embrassez des arbres et vous sucez des plantes.
C'est comme ça qu'on devient romancier.
Vous sucez des belles plantes.
Ben voilà, mais ouais.
C'est bien pour vous de faire une émission littéraire.
Je peux enfin ouvrir mon cœur.
Faire mon
coming out végétal.
Merci. Merci Didier Van.
Europe 1, Anne Romanoff. L'histoire de la semaine.
Didier Van Kovelaert, on a une tradition dans cette émission. Chaque jour, on écrit une histoire avec un mot pioché au hasard. C'est à vous de poursuivre l'histoire qui a été démarrée lundi par Philippe Lelièvre et Pascal Légitimus et hier par Hélène Darroze. À vous de la poursuivre en jouant 2 phrases.
Personne de confiance.
Une personne de confiance. Alors vous allez écouter ce qu'ont fait les autres et à vous de continuer. Il faut que ça ait une fin ouverte pour que les autres puissent continuer.
Elle était inconnue, cette professeure de physique qui habitait Crouilly-sur-Ourcq. Mais ce matin-là, elle n'était que nue. Elle n'était pas avec une queue nue, mais elle était que nue.
Elle était connue et elle avait décidé quelque chose, c'est que, enfin, elle était très dans la jouissance et elle voulait se faire plaisir. Elle s'est dit, ce soir, je vais au grand restaurant.
Et à peine arrivée à sa table, elle voit le maître d'hôtel qui vient avec le menu et elle se tourne vers lui en lui disant « Je suis désolé, je suis végane et je ne peux dîner qu'avec une personne de confiance qui ne mangera pas de viande. » Et comme il n'y a personne en face d'elle, personne dit « Mais vous n'avez rien à craindre. » Si, parce que la personne avec qui je dîne est un décédé et c'est la seule personne avec qui je peux avoir une histoire d'amour suivie parce qu'au moins je sais qu'il ne me trompera plus. Oh.
Merci Didier Van Kovaler d'être passé nous voir. On rappelle votre roman La personne de confiance qui sort demain aux éditions Albin Michel. Je vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. Nous serons de retour dès demain à 11h sur Europe 1.